Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour à vous, auditeurs et auditrices de Radio B. Je suis Marie, animatrice à la Conf de l'Ain, et je reçois tous les premiers mardis du mois sur Radio B un ou une membre de la Confédération paysanne ou de son réseau. Aujourd'hui, je reçois Bernadette et Philippe à Radio B. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît?
Moi, c'est Philippe, donc j'ai 65 ans, je suis paysan retraité, j'étais adhérent de la Conf et toujours adhérent des Amis de la Conf aujourd'hui. Je suis aussi militant de l'AFPS, j'ai aussi un petit peu d'activité auprès de l'association Solidarité Paysan et je suis élu local.
Bernadette Bardet, retraitée de l'enseignement. Je n'étais pas agricultrice, même si j'étais dans le monde agricole. Et voilà, et donc je suis militante à l'AFPS et au CCF des Terres Solidaires, qui est aussi sur le terrain de la Palestine par un certain biais côté.
C'est donc ça, cette situation de la Palestine et des paysans et des paysannes de Palestine que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, la Via Campesina, dont fait partie la Conf, se tient aux côtés des paysans et paysannes palestiniens face à la colonisation, aux accaparements de terres et d'eau et aux multiples violations des droits humains dont ils sont victimes. Depuis 2023, l'ampleur des massacres à Gaza a amené la Via Campesina à renforcer son travail de solidarité avec les paysans palestiniens. Pour resituer le contexte, quelques chiffres. En Palestine, en 1969, 50% des emplois se trouvaient dans l'agriculture. Il n'en restait en 2022 plus que 6,5%. L'agriculture palestinienne représentait en 2023 4% du PIB, mais elle est importante surtout en matière d'autoconsommation. L'enjeu agricole est économique, politique et culturel pour les Palestiniens et Palestiniennes, et c'est une activité symbolique de résistance. L'agriculture est aussi très dépendante de l'accès à la ressource en eau. Et aujourd'hui, 80% des eaux de nappes souterraines sont dévolues à Israël, malgré le fait qu'elles soient localisées à 75% en Cisjordanie. Alors Philippe, Bernadette, vous êtes tous les deux allés en Palestine, est-ce que vous pouvez nous raconter vos voyages ?
Oui, ça va être long. Hein. Donc oui, moi je suis allée plusieurs fois en Palestine, une dizaine de fois à peu près, soit des voyages de groupe organisés par le CCF des Terres Solidaires ou un voyage avec Philippe organisé par le collectif Palestine de l'Ain. Et puis sinon, des voyages individuels, comme on dit dans le Jura, à deux tout seul avec mon mari, dont le dernier était en novembre 2022.
D'accord.
Moi, j'y suis allé donc une seule fois en 2016, donc organisé par l'AFPS de l'Ain. On était une douzaine de militants à faire ce voyage. Donc, on est allé en Cisjordanie pour rencontrer des acteurs de la résistance palestinienne et également aussi des agriculteurs. On y reviendra tout à l'heure. Et on était allé aussi en Israël pour rencontrer essentiellement ce qu'on appelle des Palestiniens de 48, c'est-à-dire c'est des gens qui, lors de la création de l'État d'Israël en 48, sont restés chez eux. Mmh. Et donc ces gens-là représentent quand même 20% des habitants de l'État d'Israël aujourd'hui. Et donc on en a rencontré dans les villes de Nazareth, Haïfa, Saint-Jean-d'Acre ou Jaffa. Voilà, et puis peut-être juste pour quelques mots pour qualifier un peu ce qu'on a pu ressentir à ce moment-là. C'est clair qu'en Cisjordanie, on a vécu de près ce qui est aujourd'hui, ce qui est toujours la réalité de la colonisation et de l'occupation. Et à l'intérieur de l'État d'Israël, on a pu aussi observer comment les Palestiniens sont discriminés par les autorités de l'État d'Israël.
T'en as parlé du coup, Philippe, la colonisation des territoires palestiniens à Gaza et en Cisjordanie a complètement détruit la capacité de ses habitants de se nourrir et de subvenir à leurs besoins. Avant la dislocation des territoires palestiniens, il faut savoir que la diversité des terroirs permettait une quasi-autonomie alimentaire. Quelques exemples, les céréales et les oliviers prédominaient dans les régions de Naplouse, Tulkarem et Ramallah, les vignes d'Ancel d'Hébron et les produits issus de l'élevage dans tout le pays. Les vignes couvraient, elles, 12% de la surface agricole, soit près de 7000 hectares, et elles produisaient 50 000 tonnes de raisins et faisaient vivre 10 000 personnes. Alors, lors de vos voyages, vous avez pu rencontrer des paysans et des paysannes?
Oui, on en a rencontré, oui. On en a rencontré en Cisjordanie. Mmh. Donc peut-être Philippe parlera des deux paysans qu'on a rencontrés à Tul Karem et à Farka. Et voilà, donc en même temps, on se rend compte de la difficulté dans laquelle ils sont. Et en même temps, on est toujours ébahis mmh. de la faculté de résistance qu'ils ont. Et par exemple, alors je vais prendre aussi la vallée du Jourdain. Mmh. Dans la vallée du Jourdain, qui est en zone C, donc en zone administrativement gérée par Israël, complètement gérée par Israël, et qui est colonisée, avec beaucoup de colonies. On reviendra sur l'établissement des colonies. Et par exemple, il y a la question de l'eau qui est cruciale, où, à Aloja, un village de la vallée du Jourdain. Les paysans ont fait des retenues d'eau, des canaux, etc., parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la source. Mmh. Il y a une source dans le village, mais pour avoir accès à la source, en fait, ils ne peuvent plus, parce qu'Israël a creusé des puits plus profonds que ceux qu'eux peuvent creuser pour s'alimenter. Okay. Donc voilà, et puis il y a toute la question de l'accaparement des terres par les colonies et par l'armée qui décrète des zones militairement pour les essais, pour leurs D'accord. essais d'armée. Donc ils peuvent pas les exploiter. Le deuxième terrain où je voulais intervenir, c'est que j'ai eu la chance en 2013 d'aller à Gaza. Donc c'était pas possible d'y aller très facilement, mais j'étais en mission avec la chargée de mission du CCF des Terres Solidaires. Et là-bas, au niveau de l'agriculture, déjà, c'était très difficile à cette époque-là, parce qu'Israël avait décrété une zone tampon le long de sa frontière, le long de sa limite, qui n'est pas une frontière, puisqu'il n'y a pas d'État palestinien. Mais le long de sa limite, il y avait déjà un no man's land, où c'était les terres les plus fertiles D'accord. de la bande de Gaza, et où les paysans étaient interdits d'aller cultiver. S'ils y allaient, ils risquaient des tirs de l'armée israélienne. On leur avait interdit les arbres de plus de 90 cm de haut pour éviter que des terroristes se cachent derrière.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc, et puis, alors, ce que j'ai constaté quand même, j'ai visité des serres de fraises, à vous faire envie, surtout que c'est la saison chez nous maintenant, sachant que la bande de Gaza fournissait, bien sûr, toute la Palestine et une partie des pays du Moyen-Orient en fraises.
Okay.
Et que depuis le blocus de 2007, le commerce était beaucoup plus difficile. Et donc, les paysans qui vivaient des fraises, là où ils pouvaient encore aller les cultiver, il y avait de magnifiques orangers aussi. Et puis, beaucoup de cultures en serre, des tomates, etc. Donc, ils arrivaient à se nourrir avec ce qu'ils pouvaient cultiver. On a fait la visite, d'ailleurs, avec le parc que vous nommez quelque part dans vos questions qui vont venir. Donc, voilà, c'était une terre assez riche. Et l'autre problème pour l'alimentation, pour la sécurité alimentaire de Gaza, c'est la pêche. La pêche est très importante à Gaza. Gaza, ça ouvre sur la Méditerranée. Et les pêcheurs étaient empêchés d'aller à une certaine distance. D'accord. Ils avaient une certaine distance de limiter. Okay. Et s'ils dépassaient cette distance, il y avait les navires de l'armée qui arrivaient. Et puis, du fait de restreindre la zone de pêche, les poissons étaient moins nombreux. Voilà, et donc on voit que tout, il y a très longtemps, c'est pas de maintenant que les Palestiniens sont empêchés de vivre correctement et en particulier de se nourrir et de produire.
Oui, ben peut-être pour compléter ce que vient de dire Bernadette, c'est vrai que ce qu'on assiste aujourd'hui à Gaza, c'est une opération méthodique de destruction des capacités de production dans les territoires occupés. Alors à Gaza, bien entendu, mais ça fait depuis 1948 et la création de l'État d'Israël que cet État développe une politique de colonisation et d'accaparement. Concernant l'agriculture, voilà, il faut bien situer ça dans un contexte où, avant peut-être de parler des cas concrets qu'on a pu rencontrer quand on s'est déplacé là-bas, mais c'est un accaparement méthodique des ressources de production, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, etc., que le fait qu'il y ait de la colonisation, les colonies sont des lieux où il y a une production agricole intense et qui a vocation à inonder le marché local palestinien et à rentrer en concurrence avec les productions des paysans et paysannes palestiniens. Sans parler que qu'on peut assister au fait que les Palestiniens, ils n'ont d'autre choix aujourd'hui souvent que d'aller travailler dans les colonies sur leur propre territoire.
Voilà, et dans, je complète, sur la vallée du Jourdain, par exemple, un paysan nous disait qu'il allait travailler sur ses anciennes terres, qu'il travaillait avant comme paysan palestinien et qui avait été réquisitionné par une colonie. Il allait travailler comme salarié. Enfin, voilà, c'est immonde.
Voilà. Et puis, on peut ajouter aussi que les colons, qui sont soutenus par l'armée, sont en permanence dans des situations... ils cherchent à entraver l'accès aux parcelles des paysans palestiniens. Et bien entendu, on a tous en tête aussi... Bernadette a évoqué tout à l'heure l'accaparement de la ressource en eau, aussi bien par le creusement de puits, mais aussi sur la législation de l'État où on autorise aux colons des choses qu'on n'autorise pas aux Palestiniens. Voilà, et puis on a tous en mémoire aussi la destruction des oliviers, l'arrachage des cultures, etc., etc. Alors c'est vrai qu'on a pu rencontrer, on peut rappeler deux agriculteurs qu'on a rencontrés là-bas. Donc il y avait Baker Afarka qui est dans les collines de Cisjordanie. Ce sont des endroits un peu idylliques. Bernadette a évoqué la gentillesse et l'accueil de ces gens-là. C'est vrai qu'on a de très bons souvenirs. Mais peut-être, si on veut s'arrêter un peu plus sur Fayez de Tulkarem, qui est un maraîcher bio, qui est vraiment, lui, dans une situation où la pression de la colonisation est très, très forte. Enfin, il est à proximité de l'État d'Israël, donc très, très proche du mur de sécurité. Et il subit au quotidien un harcèlement permanent des colons et de l'armée israélienne. Mais malgré tout, il cherche à développer des stratégies de résistance, de résilience. On a vu, par exemple, sa capacité à fabriquer de l'énergie avec de la méthanisation, à faire tout un travail de semences. Il est aussi en agriculture biologique, ce qui lui permet de se passer aussi des intrants, parce qu'il faut bien savoir aussi que les agriculteurs palestiniens, ils sont aussi, quand on parle de l'accaparement des terres, de l'eau, etc., il y a aussi la capacité à se fournir en matériel, en intrants, etc. Donc ils développent des stratégies d'autonomie qui leur permet de contourner un petit peu cette pression des Israéliens.
Ça marche. Le 16 mai, l'ONU a dénoncé, je cite, qu'il semble y avoir une volonté de provoquer un changement démographique permanent à Gaza en violation du droit international et équivalent à un nettoyage ethnique. Le rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire dresse un constat de risque critique de famine, avec 22% de la population bientôt dans une situation catastrophique et 100% de la population en situation d'insécurité alimentaire grave. La CONF, depuis le début des crimes commis par le gouvernement israélien, dénonce de toutes ses forces l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Est-ce que vous avez, par les organisations dont vous faites partie, des nouvelles de vos contacts à Gaza et en Cisjordanie?
Alors moi, je peux parler de Israël Châtelet, qui est un responsable agricole et d'une association d'agronomie, et avec qui on est en contact par le CCF des Terres Solidaires, puis aussi par l'AFPS. Enfin, c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on a rencontré donc à Paris il n'y a pas longtemps. Et lui, il dénonçait, parce que Philippe vient de dire, que de plus en plus, c'est l'accaparement des terres par Israël. Et ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est les checkpoints, les barrages militaires à l'intérieur de la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est très petit. Et là, ça, c'est depuis octobre 2023, les barrages se sont multipliés. D'accord. Donc on imagine, pour aller chercher des produits et les rapporter au lieu de vente, on peut être arrêté à un checkpoint. L'armée peut dire d'attendre 2 heures, 3 heures. Si vous avez des légumes dedans, ben voilà ce que ça devient, surtout qu'il fait chaud là-bas. Et puis depuis le 7 octobre, il disait que la vie économique s'est dégradée parce que l'autorité palestinienne ne verse plus les salaires intégralement. D'accord. Donc les gens n'ont plus de pouvoir d'achat.
Ah oui.
Et donc pour acheter les produits, même les quelques produits qu'ils peuvent produire, ils n'ont plus les moyens. Et puis il y a des Palestiniens, pas mal de Palestiniens qui travaillent en Israël et donc ils ne peuvent plus y aller. Donc il y a l'économie est vraiment en berne. Et puis Philippe le disait, de plus en plus d'attaques de colons sur les cultures, de pollution par les déchets. Ils balancent leurs déchets dans les terres agricoles. D'accord. Et puis par les eaux usées aussi. Et par exemple, en 2023, il y a 40% de la récolte des olives qui n'avait pas pu se faire. Et les olives en Cisjordanie, et l'huile d'olive, c'est c'est la ressource économique agricole la plus importante. Voilà, et puis donc on a parlé tout à l'heure hors micro de Massa Ferriata, où se passe le film No Other Land, il y en a peut-être qui l'ont vu, et on a eu le témoignage d'un Palestinien de Massa Ferriata qui est venu à Bourg et qui disait que les colons étaient sans arrêt après les attaquer, en particulier attaquer leurs troupeaux de moutons.
D'accord.
Voilà ce qu'on peut dire. Ce qui s'est aggravé, c'est ce qui s'est aggravé en fait, ouais. Parce que ça existait déjà. Mais là, c'est les colons sont lâchés, quoi. Et, ils font... et puis, quelque chose que j'ai découvert aussi en entendant Israël Châtelet, c'est l'effet des bombardements à Gaza. Bon, les bombardements, évidemment, ça fait des gros trous, hein, ça retourne toute la terre. Et, mais il y a aussi une influence sur le fait que ça réchauffe la terre. Et pendant longtemps.
D'accord.
Et il y a tous les produits contenus dans les bombes qui sont enfouis.
Les produits chimiques.
Les produits chimiques et qui vont rester dans cette terre. Alors, quand on parle de reconstruire Gaza, sans parler, même si on parle aussi de reconstruire les bâtiments, mais il y a aussi toute cette terre qui va être abîmée, quoi.
Oui, je crois qu'il faut bien comprendre, hein, ça, on l'a dit et on peut le redire, hein, c'est que c'est vrai ce qui s'est passé, ce qu'on observe aujourd'hui dans les actualités par rapport à Gaza, mais on nous explique effectivement qu'il y a eu le 7 octobre avec la réaction de l'État d'Israël, etc. Mais c'est important de rappeler qu'on se situe dans un contexte qui date de 70 ans, 75 ans, etc. Bon, la création de l'État d'Israël, c'est 1948, et il faut bien comprendre que l'État d'Israël ne veut pas d'un État palestinien. Et donc, même si ils peuvent, à certains moments, envisager des négociations, ils n'ont de cesse de faire en sorte que la vie des Palestiniens soit impossible, que leur capacité de production et d'autosuffisance soit impossible. On a dit tout à l'heure que Gaza était... une bande fertile où on a parlé, Bernadette a parlé des fraises, des citrons, des oranges, etc., de la pêche. Et aujourd'hui, la totalité des capacités de production de la bande de Gaza ont été détruites. Et c'est vrai que la politique de l'État d'Israël, c'est de faire en sorte d'affamer les gens, qui est la famine étant une arme de guerre, ça c'est clair, et de rendre leur but ultime, et les Américains les soutiennent dans ce sens-là, c'est de faire en sorte que la vie soit tellement impossible que les gens fuient le territoire, et le risque de déportation aujourd'hui des 2 millions de Gazaouis n'est pas un risque négligeable. On a peine à imaginer qu'on puisse envisager ça. Mais aujourd'hui, Netanyahou et Trump ne cachent pas leur volonté de déporter et de déplacer cette population pour réinvestir la bande de Gaza.
Pour développer l'indépendance des territoires palestiniens vis-à-vis d'Israël, il y a deux associations qui travaillent au développement de l'agriculture. Donc l'UAWC, en lien avec le PARC, donc c'est le Comité palestinien de secours agricole. Ils ont par exemple mis en place une banque de semences palestiniennes et incitent les paysans et paysannes à s'engager dans l'agroécologie et l'autonomie paysanne. Les organisations luttent aussi pour l'amélioration des conditions de vie des paysans et paysannes et contre la paupérisation dont ils et elles sont victimes avec la colonisation et le libéralisme. Et seulement, donc on revient à cette thématique-là, c'est Israël qui contrôle la ressource en eau et qui rationne drastiquement l'eau allouée aux Palestiniens. Ainsi, dans les maisons palestiniennes, l'eau courante n'est disponible que de façon très sporadique, parfois 2 jours par mois, parfois pendant plus de 3 mois. Est-ce que vous avez des informations aussi sur ce sujet de l'accaparement de l'eau ?
Moi, je dirais une chose, c'est que ce n'est pas nouveau. Parce qu'en 1964, Israël a réalisé la construction d'une conduite qu'ils ont appelée la conduite d'eau nationale, qui permettait le transfert de 400 millions de mètres cubes d'eau par an depuis le bassin du Jourdain jusqu'à la plaine côtière et dans le Négev. Donc, ils pouvaient se targuer de faire refleurir le Négev parce qu'ils avaient piqué l'eau déjà là, en amont. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur la situation actuelle. À Gaza, par exemple, à Gaza, ça fait très longtemps qu'on dit que 90% de la population n'a pas droit à de l'eau potable. Donc, il y a ce problème de l'eau à Gaza. Il n'est pas non plus depuis le 7 octobre. Avant déjà. Et il y a tout le problème du blocus qui faisait que les stations d'épuration n'étaient pas alimentées en électricité ou en, voilà, et qu'on ne pouvait pas avoir de l'eau potable. Donc, il y a plein de... Enfin, une fois qu'on est parti, il y a plein de choses à évoquer.
C'est vrai que sur la question de l'eau, c'est une illustration de toutes les décisions, des stratégies politiques et militaires d'Israël, hein, puisque l'eau est un élément central de cette région. Aujourd'hui, par exemple, la maîtrise du Golan, qui est un territoire syrien et qui est aujourd'hui annexé par Israël, ou la présence de l'État d'Israël au sud du Liban, est complètement cohérente avec sa politique de maîtrise de l'eau sur tout l'ensemble de la région. Pas seulement... Donc ça concerne effectivement le Liban, la Syrie, la Jordanie, et donc Israël cherche à maîtriser cet aspect-là.
Oui, comme vous le dites, il y a beaucoup d'éléments à aborder. Malheureusement, on va s'arrêter là. Je vous remercie vraiment tous les deux de votre présence. Pour terminer, on vous recommande quand même la lecture aussi du carnet de bord de deux paysannes en Palestine, où Fanny, éleveuse de brebis en Ardèche et maintenant porte-parole de la Confédération paysanne, et Morgane, maraîchère dans le Morbihan, relatent le voyage qu'elles y ont mené. Voilà, du 8 au 18 décembre 2024, elles étaient en Cisjordanie avec une délégation de la Via Campesina. Elles relatent quotidiennement ce qu'elles font aux côtés des membres de l'organisation palestinienne, donc l'UAWC que j'ai cité plus tôt, qui est l'Union des comités de travailleurs de l'agriculture. Et Bernadette l'a cité, on vous recommande également le film Notherland qui détaille un peu la situation.
Et on peut aussi rappeler, si vous on permet, que le collectif Palestine du département de l'Ain organise chaque semaine des rassemblements, le plus souvent le samedi matin à 10h30 vers le marché couvert, et le premier vendredi de chaque mois à 17h30, un rassemblement devant l'hôtel de ville de Bourg, sachant que ces rassemblements ne datent pas encore une fois du 7 octobre 2023, mais ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que ces rassemblements ont lieu chaque premier vendredi du mois à 17h30 devant l'hôtel de ville de Bourg-en-Bresse.
Et ça, c'est à Bourg-en-Bresse, mais il y a aussi des rassemblements ou des manifestations qui ont lieu dans le Haut-Bugey, à Oyonnax ou Nantua. Et puis aussi, ça commence à Bellegarde. Voilà.
Merci beaucoup pour cette précision. Merci beaucoup, auditeurs et auditrices de Radio B, pour votre écoute. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous.